Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre Billy Hughes. On va s'intéresser dans celui-ci à l'impact qu'il a eu sur la scène internationale. On verra aussi comment en Australie, sur le plan national, il a su s'affranchir des partis pour défendre ses propres idées. Et de cette manière, rester un parlementaire absolument stratégique tout au long de sa très longue carrière. Alors, vous mentionniez comment il s'est beaucoup investi aussi pour défendre les intérêts de l'Australie à l'international. Alors, on avait vu encore une fois sur Alfred Deakin que lui aussi avait pas mal été impliqué au niveau de l'Empire britannique, on va dire. Là, ce que j'ai remarqué comme différence avec Hugh, c'est que ça va au-delà de Londres. Il commence à être identifié par tous les grands de ce monde à l'époque. Et il va notamment participer aux négociations qui vont conduire à la signature du traité de Versailles en 1919. Alors, vous disiez, ces voyages à l'étranger, ça implique de très longues absences. J'ai vu que pour ces négociations, il était hors de l'Australie, et en l'occurrence à Paris, pendant quasiment un an et demi. Ça semble fou qu'un dirigeant d'un pays puisse diriger son pays tout en étant éloigné pendant aussi longtemps. Et pour revenir sur ces négociations et les positions de Billy Hughes au cours de celles-ci, j'ai retenu trois choses sur lesquelles j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Alors déjà, il obtient que ce soit l'Australie qui remplace l'Allemagne en tant que puissance coloniale en Nouvelle-Guinée. Donc c'est une partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie à l'époque est déjà colonisée par l'Angleterre. Il a des rapports extrêmement tendus avec le président américain Woodrow Wilson, qui est l'une des figures de ces négociations post-Première Guerre mondiale. Et puis enfin, il est un très très farouche opposant, si ce n'est le plus farouche opposant, à une proposition alors portée par le Japon qui vise à interdire la discrimination raciale. Est-ce que ça résume bien ce Billy Hughes, ces trois points que j'ai retenus sur son intervention au cours de ces négociations?
Oui. Alors, c'est vrai que nous, ça nous paraîtrait absolument aberrant si notre Premier ministre, notre président, partait à l'étranger, gouvernait depuis l'étranger pendant un certain moment. Mais à l'époque, c'est accepté, il n'y a pas vraiment le choix. Et puis, par ailleurs, il y a des avancées technologiques très surprenantes, telles que le télégraphe, qui permettent de pouvoir faire ses affaires à distance. Enfin, ça nous paraît une technologie vraiment du passé, mais pour les personnes de cette époque, ça a changé la vie. Et donc, effectivement, il se retrouve propulsé à Londres, à Paris. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que là où on avait des premiers ministres australiens pro-British pendant des années, et avant et après lui d'ailleurs, lui, effectivement, son intérêt, c'est celui de l'Empire, mais c'est surtout celui de l'Australie. Et il fait partie des premiers ministres les plus nationalistes au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Australie en premier. Parce qu'avant et après, en fait, l'Australie fait partie de l'Empire et donc il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'Empire, c'est une question qui se pose pas. Les Australiens se conçoivent comme britanniques, donc voilà. Mais Hughes veut que les sacrifices des Australiens, qu'il soit en termes de vie au front, que ce soit en termes économiques pour soutenir l'effort de guerre impérial, soit récompensé, que l'Australie ne soit pas oubliée. Et à l'époque, le cabinet de guerre britannique et le ministère des Affaires étrangères traitent pour l'Empire, si vous voulez. La nouveauté, c'est que lui se pointe à la table des négociations et tout simplement impose son siège en disant « Je suis le Premier ministre, certes, d'une nation qui fait partie du Commonwealth, enfin de l'Empire, mais elle a ses propres intérêts. » Et dans ses intérêts, il y en a plusieurs. Il est plutôt bon copain avec Clémenceau parce que c'est un des hommes les plus virulents pour faire payer l'Allemagne. Alors, Clémenceau n'est pas d'accord avec Hughes sur pas mal de choses, mais enfin, c'est pas grave, ça lui permet d'avoir un petit zigoto très dynamique, très remonté contre l'Allemagne. Et Clémenceau peut dire à Wilson et à Lloyd George, vous voyez, moi finalement, je suis quand même plutôt modéré comme bonhomme. Bon, alors, il y a cet aspect-là. L'aspect que vous avez rappelé avec Wilson est vrai. Au début de la conférence, ça se passe très très mal parce que Woodrow Wilson a cette idée qu'en fait il faudrait une paix juste et puis créer la Ligue des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Et en fait, Hughes, lui, tire la couverture vers lui en disant oui, mais l'Australie, on voudrait récupérer des territoires allemands dans le Pacifique. Votre projet de Ligue des Nations, je ne sais pas trop où ça va aller. Et puis Wilson lui dit, mais attendez, il y a 1 milliard de personnes dans le monde et vous êtes en train de m'embêter avec vos 5 millions. Et de façon très célèbre et très reprise dans la presse à l'époque, Hughes lui répond, mais moi, monsieur, je parle pour 60 000 morts. Parce qu'effectivement, tout petit pays, l'Australie, à l'époque, met beaucoup de morts proportionnellement dans la Première Guerre mondiale, alors qu'on le sait bien, les États-Unis, le gros des troupes est arrivé en 18 pour la fin. Donc, ce petit monsieur d'un coin de l'Empire qui recadre le président des États-Unis, qui n'était pas la puissance que l'on connaît aujourd'hui, mais enfin, qui était une puissance émergente très très importante à l'époque. Là, en revanche, où il va s'unir main dans la main avec Wilson, c'est effectivement, vous l'avez rappelé, quand les Japonais proposent que, au sein du traité de Versailles, soit établi ce qui est appelé à l'époque la clause d'égalité raciale. Parce qu'effectivement, à l'époque, c'est un monde d'empire. Vous avez l'Empire britannique, l'Empire allemand, l'Empire français, etc., etc., l'Empire russe. Les Japonais sont eux aussi très enjoués à l'idée de développer leur propre empire, ce qu'ils feront dans les années 20 et 30. Hein, et puis, on sait ce que ça donne avec la Deuxième Guerre mondiale. Et à Versailles en 19, les Japonais veulent que l'égalité des races soit au moins mentionnée ou reconnue officiellement. Branle-bas de combat pour Hughes et pour Wilson, parce que Wilson représente des États-Unis où la ségrégation fait rage. Donc, admettre l'idée d'égalité raciale sur le plan international, vous imaginez les conséquences que ça pourrait avoir aux États-Unis. Pareil pour Hughes. Il le dit à l'époque, hein, le premier ministre australien qui remettrait en cause la politique de l'Australie blanche perdrait son boulot du jour au lendemain. On en a parlé dans plusieurs épisodes. À l'époque en Australie, si vous n'êtes pas blanc et d'origine européenne, vous ne rentrez pas. C'est un pays totalement fermé et complètement raciste. Et Hughes n'échappe pas, même s'il est de gauche, enfin de gauche de cette gauche de l'époque, il n'échappe pas au paradigme central de l'Australie de l'époque, que vous soyez de gauche, du centre ou de droite, vous êtes généralement complètement raciste. Il l'est à l'égard des aborigènes. Hein. Il y a des phrases que je ne répéterai pas ici qui sont d'une violence sans nom contre les aborigènes et l'époque de la colonisation. Mais il l'est aussi à l'égard de tous les Asiatiques qui, autour de l'Australie, s'il y avait une clause d'égalité raciale, il se pourrait que peut-être un jour ces personnes veuillent vouloir travailler en Australie. Et comme le Parti travailliste doit protéger les travailleurs, l'immigration qui pourrait faire baisser les salaires, c'est non. Donc en fait, est-ce que c'est un racisme biologique? J'étais pas dans sa tête ou dans son cœur, mais en tout cas, est-ce que c'est un calcul politique? Oui, c'est un calcul politique. Et Hughes est un fervent défenseur de la politique de l'Australie blanche, ce qui fait que quand son pays avance dans les années 40 et dans les années 50, lui passe vraiment de la gauche à la droite modérée, à finalement ce que nous on qualifierait d'extrême droite aujourd'hui.
Ouais. Alors justement, je voulais revenir plus largement sur sa carrière au sommet de l'État. On l'a dit, il va être Premier ministre jusqu'en 1922, et dans cette jeune fédération australienne, c'est un record de longévité à ce moment-là. Et il détient toujours, et je pense que ce sera très difficile à battre, un autre record de longévité. Je l'ai dit en introduction, il est le seul parlementaire australien dans l'histoire à avoir siégé sans discontinuer plus de 50 ans à la Chambre basse. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, il a pas mal évolué dans sa carrière en termes de parti politique. On peut pas dire qu'il a été très fidèle au parti politique, peut-être un peu plus à ses idées, du moins en partie. Et en fait, ce qui me surprend dans cette histoire, c'est qu'on sait que dans le cadre d'élections, etc., enfin, le soutien d'un parti, qui plus est un parti politique un peu costaud, qui a des moyens de financer une partie au moins de votre campagne, c'est quand même clé pour se faire réélire. Mais le fait justement qu'il ait ben voilà, surfé d'un parti à l'autre et évolué quand même assez nettement en termes d'idéologie, vous disiez passer de la gauche à un équivalent aujourd'hui de l'extrême droite, est-ce que ça, vous pensez, participer à la longévité de sa carrière politique?
Oui, vous avez raison. Il faut une machine de parti pour être élu. Et donc, en fait, à mesure que Hughes n'arrive pas à convaincre le parti, et ben, si vous voulez, il les quitte. Il les quitte, il prend les hommes compétents qu'il y a dedans, et puis il recrée un parti. Et donc, c'est quelqu'un qui a changé 6 fois de parti politique. Mais bon, voilà, si vous
Et qui
allez
s'est
de
fait
gauche ou de droite.
éjecter 4 fois sur 6 du parti dont il était membre. Ouais.
Non
Excusez.
seulement dont il était membre, mais parfois dont il était à la tête. C'est-à-dire que sur les 6 partis dans lesquels il a été, à un moment donné ou à un autre, il en a dirigé 5 de ces 6 partis. Et il s'est fait virer à plusieurs reprises. Et c'est quelqu'un qui, très franchement, bah, enfin, pour lui, c'était pas grave, ça faisait partie du jeu politique. Ce qui compte dans le jeu politique, c'est d'être aux commandes. Et à partir de ce moment-là, il est très clair avec lui-même comment puis-je être aux commandes. Je ne vais pas attendre un cycle électoral ou deux que mon parti revienne au pouvoir. Je change de bord. Pas nécessairement en changeant toutes mes idées, mais parce que ce qui m'importe, c'est que les choses avancent. Et si vous voulez, à l'époque, il fait partie des grandes figures politiques auxquelles ces changements de bord pouvaient être pardonnés parce que les Australiens y voyaient parfois un certain avantage également. Donc en fait, c'est pas quelqu'un d'idéologique, de statique, de dogmatique. Il l'est à certains égards hein, sur la question, enfin sur le racisme par exemple. Oui, ça, y a pas de doute. Mais sur les questions de politique économique par exemple, c'est quelqu'un qui a un petit peu fait tout et son contraire pendant sa carrière, suivant les partis auxquels il prêtait momentanément donc allégeance. Mais, enfin, on est forcé de constater qu'en fait, c'est une stratégie qui a payé pour lui du point de vue professionnel, parce qu'il est quand même député pendant 50 ans. C'est incroyable. Il est député à la première assemblée australienne en 1901, et puis bah, il meurt au poste en 1952. Et en parallèle de ça, c'est quelqu'un qui a changé d'électorat. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu le même électorat pendant ses 51 années et quelques, 51, pardon. Il a plusieurs fois changé de géographie parce que la géographie électorale changeait, parce qu'il changeait de parti et que parfois il est plus simple de se faire élire dans telle circonscription que dans telle autre. Donc c'est un Machiavel, c'est certain, mais il faut quand même lui reconnaître un certain génie politique en fait. Et d'ailleurs, même une fois qu'il est plus Premier ministre, hein. En fait, si vous voulez, à un moment donné, un des partis, le Country Party, le parti de Hughes est mis pas en ballottage, mais il se retrouve dans une situation de gouvernement de minorité en fin 22, et l'accord qui est trouvé avec le parti de coalition, le Country Party, c'est qu'en fait, ils veulent bien leur apporter les voix au parti de Hughes, mais faut que ça change de main. Et donc, l'Australie change de Premier ministre avec quelqu'un qui s'appelle Stanley Melbourne Bruce. Et Hughes, bien évidemment, le prend pas très bien. Et en 28, quelques années plus tard, il fait tomber le gouvernement. Et en fait, il continue à avoir un impact sur la politique australienne nationale pendant assez longtemps. Il est passé à très peu de choses de se faire réélire Premier ministre en 1939, par exemple.
Ok.
Donc, c'est pas qu'un premier ministre de la Première Guerre mondiale. Non, c'est quelqu'un qui définit la politique australienne pendant plusieurs décennies, voire pendant plusieurs générations, et dont l'impact est encore présent jusqu'au début des années 50. Oui.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.